L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Et voici donc l'actualité de la semaine avec les médias francophones publics. Les partenaires, comme chaque semaine, RFI, Radio-Canada, ici la Radio-Télévision Suisse et la RTBF. Et d'abord, les suites de deux scrutins au Burundi, Nicolas Sûr. La commission électorale a publié cette semaine les résultats des législatives et des municipales du 5 juin dernier.
Le scrutin avait été très controversé, les résultats le sont tout autant, car le CNDD-FDD au pouvoir a raflé tous les sièges qui étaient en jeu.
En Suisse, le trafic ferroviaire a été fortement perturbé lundi dernier. Des perturbations liées à des manifestations en faveur de Gaza, Pierre-Anne Chauffat.
Oui, dans les gares de Lausanne et Genève, une centaine de manifestants ont occupé les voies. Une technique qui n'est pas sans rappeler les actions coup de poing d'Extinction Rébellion et qui traduit aussi une indignation face à l'inaction.
Les pourparlers entre le Canada et l'administration Trump, on y revient cette semaine. Elles avancent, Nadim Mubarak, à quelques jours du sommet du G7 en Alberta.
Le premier ministre Mark Carney confirme à Radio-Canada que des négociations intensives se poursuivent avec les Américains pour faire lever les tarifs douaniers imposés par Washington.
La France sous le choc après le meurtre d'une surveillante à Nogent en Haute-Marne, une jeune femme de 31 ans poignardée par un élève de 14 ans. Le jeune homme a été mis en examen et un peu partout des hommages ont été observés par des profs, des élèves, des parents, des conseillers d'éducation et tous s'interrogent.
La question que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des jeunes qui se sentent dans l'obligation de porter un couteau sur eux. On sait que quand on a une arme sur soi, à chaque moment ça peut déraper.
Enfin, en Belgique, nous reviendrons sur cette très grosse opération de police menée cette semaine à Anderlecht, et c'est en région bruxelloise. Plus de 800 policiers ont investi un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de stupéfiants, Jacques Kremers.
Oui, c'est la cité du Peterbos. L'objectif était de sécuriser un quartier laissé trop longtemps aux mains d'organisations criminelles. D'autres actions auront lieu prochainement pour déstabiliser les trafics de drogue.
Le secrétaire général du CNDD-FDD au pouvoir au Burundi en avait fait un objectif, obtenir 100% aux élections législatives. Le parti présidentiel s'empare des 100 sièges qui étaient en jeu lors de ces élections du 5 juin dernier, Nicolas.
Oui, la commission électorale le crédite de plus de 96% des voix exprimées. Ces mêmes résultats provisoires donnent l'ancien parti unique Uprona deuxième des législatives, loin, très loin du CNDD-FDD, avec seulement 1,36% des voix. L'Uprona dénonce un hold-up électoral.
Et son secrétaire général, Olivier Nkurunziza, accuse le parti au pouvoir d'avoir, je cite, « tué la démocratie au Burundi ».
Il parle de résultats fantaisistes en pointant par exemple le fait que le parti au pouvoir a obtenu dans deux communes au moins 100% des voix, ce qui signifierait, dit-il, que même les candidats d'opposition ont voté pour le CNDD-FDD et qu'il n'y a pas eu de bulletin nul, absurde et même ridicule selon lui. Pour les observateurs, le scrutin avait en fait été verrouillé bien en amont. Exclusion du principal opposant, Agathon Rwasa, de la course électorale, répression, intimidation des Imbonera Kure, la milice des jeunes du parti au pouvoir dans les collines le jour du vote. L'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch estime que le CNDD-FDD n'a pas voulu prendre de risques lors de ces élections, notamment à cause des frustrations grandissantes au sein de la population. Le Burundi, qui est déjà l'un des pays les plus pauvres au monde, traverse effectivement une grave crise économique marquée par des pénuries de toutes sortes.
Des pénuries qui frappent aussi cruellement la bande de Gaza. On va revenir un instant sur les manifestations de soutien qui se tiennent un peu partout. Au lendemain de l'arraisonnement du bateau Madeleine par l'armée israélienne, des manifestations de soutien à la population de Gaza ont notamment éclaté dans plusieurs villes de Suisse romande. Et Pierre-Anne, le mode opératoire rappelle les actions d'Extinction Rébellion en lien avec le climat.
À Lausanne et à Genève, une partie des manifestants réunis dans les gares en effet envahit les voies, perturbant fortement le trafic ferroviaire en fin de journée lundi dernier. Le lien avec la cause est moins évident que lorsque les activistes du climat se collaient les mains sur la route pour bloquer la circulation. Mais le parallèle a du sens pour Hasni Abidi, spécialiste du monde arabe, qui a étudié la mobilisation étudiante en faveur de Gaza.
On l'a vu avec l'environnement, c'est des causes comme on appelle transversales. Ce bateau intercepté, les jeunes s'identifient à cette cause qui est pacifique, humanitaire, briser le blocus, mais aussi alerter l'opinion publique internationale pour dire « attention, ne vous détournez pas de ce qui se passe dans ce territoire qui est en train de disparaître de la carte ».
Cette indignation, ce réveil attendu s'exprime très clairement pour cette jeune manifestante après l'arraisonnement du bateau humanitaire Madeleine.
Ce bateau-là n'est pas passé, peut-être que le dixième passera. Mais de toute façon, ce que ça a déclenché, cette arrestation, c'est l'indignation, c'est un sentiment qui pousse les gens à se rassembler. Donc pour moi, c'est quelque chose de positif parce que ça a donné de la force aux gens, ça leur a donné justement le courage de se dire « c'est trop ».
Une mobilisation spontanée qui met les autorités dans une position délicate. Pierre-Antoine Hildebrand est municipal en charge de la sécurité à Lausanne.
Nous subissons une partie de notre tolérance. La ville de Lausanne accepte les manifestations et fait toujours bien soin de préserver cette liberté, mais ça ne peut pas aller jusqu'à bloquer le principal nœud ferroviaire de Suisse romande. La manifestation est destinée à faire comprendre au public l'importance d'une cause. Nous sommes très respectueux de ce droit, mais ça ne peut pas aller jusqu'à de blocage d'infrastructures ou de violence.
Un équilibre délicat à trouver entre le droit de manifester et les nuisances potentielles de cette mobilisation.
Direction le Canada à présent, et on va revenir sur les négociations entre Ottawa et Washington pour un accord sur le commerce et la sécurité. Ces négociations, on a dit, ont franchi une nouvelle étape.
Oui, Radio-Canada a appris qu'une ébauche d'entente a été échangée entre les bureaux du premier ministre Mark Carney et celui du président Donald Trump. Il s'agit d'un court document de moins de 5 pages. Voici Mark Carney.
Nous sommes en train de discussions, des négociations en temps réel, des négociations intensives avec les Américains. On a fait du progrès, mais c'est pas fini. C'est pas fini encore.
Ottawa espère que le tête-à-tête prévu entre le premier ministre canadien et le chef de la Maison-Blanche en marge du sommet du G7 qui commence le 15 juin au Canada va faire débloquer les pourparlers.
Alors, est-ce qu'on sait ce qui fait l'objet de discussions entre Ottawa et Washington?
Eh bien, selon nos informations, le Canada obtiendrait de son voisin du Sud la levée de tous les tarifs douaniers imposés par Donald Trump depuis le début de son deuxième mandat, en échange d'une augmentation des dépenses militaires et d'investissements pour défendre la souveraineté de l'Arctique, notamment. D'ailleurs, le premier ministre Mark Carney n'exclut pas l'idée de participer au projet de bouclier antimissile Dôme d'or mis de l'avant par les Américains.
Et en marge de ces négociations, on a dit Ottawa appuie sur l'accélérateur pour atteindre ce que souhaite l'OTAN en la matière, et cela dès la fin de l'exercice financier.
Tout à fait. Ottawa a annoncé il y a quelques jours que le Canada atteindra l'objectif de dépenses militaires de l'OTAN de 2% du PIB dès cette année, notamment grâce à des investissements de près de 9,5 milliards de dollars ou 6 milliards d'euros. On parle ici d'achats de drones, de blindés, de munitions et de radars dans l'Arctique, entre autres. Et le premier ministre Carney n'a pas l'intention d'enrichir les plus grandes entreprises américaines avec ses dépenses. Il entend mettre l'accent sur l'industrie militaire canadienne.
Nadi Mobarak à Montréal.
L'accent des autres.
Des hommages, des minutes de silence un peu partout en France cette semaine après le meurtre d'une assistante d'éducation, une surveillante à Nogent dans la Haute-Marne. C'était mardi dernier. Mélanie avait 31 ans. Elle a été poignardée par un élève de 14 ans en marge d'une fouille des sacs à dos à l'entrée de son collège. Un rassemblement s'est tenu notamment à Tours à l'appel de plusieurs syndicats de l'éducation nationale, des profs en exercice ou retraités, mais aussi et surtout des assistantes d'éducation étaient présentes. Elle se sent évidemment très concernée par ces événements. Reportage à Tours, Philippe Père pour Ici Touraine.
Lisa est surveillante au collège-lycée Paul-Louis Courrier à Tours. Elle a 31 ans, le même âge que sa collègue tuée mardi matin.
C'est important de venir et au moins de manifester un soutien à la famille de notre collègue décédée et en fait à tous les assistants d'éducation. Parce qu'on est tous ensemble dans ce bateau.
On n'est pas des vigiles, lance la jeune femme.
Malheureusement, on nous demande de faire des choses qui vont, je pense, au-delà de nos missions de base, en fait.
Parce que oui, fouiller des sacs, ça leur est déjà arrivé, raconte Nina, 24 ans, surveillante dans le même établissement.
L'année dernière, on avait eu, c'était suite à l'attentat à Arras, on a dû fouiller, donc une fouille visuelle des sacs d'élèves. Et dans ce cas-là, on n'est pas forcément très à l'aise avec ce genre de mission qui, je pense, ne relève pas de nos missions.
C'est un métier qui devient dangereux et qui ne devrait pas l'être, poursuit-elle, sous le regard médusé d'Anne Grandet, co-secrétaire du syndicat des enseignants en Indre-et-Loire.
On est touché. Vous savez qu'il y a quelque temps, il s'agissait d'enseignants. C'est toujours la profession qui est touchée, en fait. On a du mal à imaginer
qu'un collégien de 14 ans passe à l'acte en poignardant avec 7 coups de couteau une assistante d'éducation. Ça sort de l'entendement.
Une sidération partagée par tous, ici devant l'hôtel de ville, où une minute de silence a été observée.
Nous vous remercions.
Merci.
Reportage à Tours de Philippe Père pour Ici Touraine. Enfin, en Belgique, c'est une vaste opération de police qui a fait l'actualité cette semaine. Elle a été menée à Anderlecht, en région bruxelloise. Plus de 800 policiers ont investi un quartier connu pour être un haut lieu du trafic de stupéfiants, Jacques.
C'est la cité du Peterbos, un quartier bruxellois considéré comme un hotspot du trafic de drogue. Il est connu pour son insécurité. Cela fait des années qu'il a cette mauvaise réputation. Pour ses habitants, l'intervention de la police cette semaine est accueilli avec soulagement.
Clairement, bien sûr, on est entouré de personnes qui dealent, qui vendent, qui consomment. Oui, j'ai une fille qui a 29 ans et je suis parfois inquiète quand je la vois partir de la maison, toute jolie pimpante. En tout cas, non, c'est pas facile.
C'est une très bonne nouvelle de voir la police ici. On est plus à l'aise, on est un peu tranquillisé. Parce que les gens, ils en ont marre ici, ils en ont marre. Ils sont dégoûtés de voir ce qui se passe. Des problèmes, on en a par-dessus la tête.
Plus de 800 policiers ont littéralement encerclé le quartier en début de matinée, un déploiement impressionnant qui visait surtout des appartements vides, plus de 270, utilisés comme cash ou pour la traite des êtres humains. Julien Moinil est le procureur du roi de Bruxelles.
Opération de sécurisation, on n'agissait pas sur base de mandat de perquisition, qui a pour but de reprendre le contrôle d'un quartier qui est aux mains ou qui a été aux mains à un moment donné de très grosses organisations criminelles et qui sert encore aujourd'hui de lieu de deal, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, le message, c'est ça fait des années que ça dure, il est temps que ça cesse.
Bilan de l'opération, plus de 400 personnes contrôlées, une trentaine d'arrestations. D'autres actions auront lieu prochainement, encore déclaré le procureur du roi de Bruxelles. D'autres quartiers feront l'objet de la même attention, toujours dans l'objectif de déstabiliser les trafics de drogue dans la capitale.
Jacques Rémer, c'est la RTBF pour refermer l'accent des autres. Merci d'avoir été au rendez-vous. Les médias francophones publics vous retrouvent bien sûr dans 8 jours pour l'accent des autres. Excellente fin de semaine.